Jean-Jacques Friedman, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur des investissements chez Vega IM. On va parler avec vous de stratégie et de perspectives sur les marchés financiers. En cette fin d'année, on commence enfin à apercevoir peut-être une hausse des taux aux États-Unis. Est-ce que cette fois-ci, on en est sûr ?
Non, on n'en est pas sûr. Alors, elle a commencé à avoir lieu, mais je pense que si on raisonne toujours par rapport au fait que les États sont très endettés, et ils ne laisseront pas venir l'inflation, l'inflation ne peut pas survenir, et donc ils géreront en fait une certaine hausse des taux. Alors aux États-Unis, ça peut être un petit peu plus important, et on voit les taux, le spread de taux s'écarter entre les taux allemands notamment et les taux américains. Mais justement, sur les taux européens en tout cas, nous on a le sentiment qu'il y aura toujours en fait une intervention de la Banque Centrale Européenne. Peut-être qu'en fait, elle aura la volonté de que son action s'inscrive dans la durée et donc elle achètera peut-être un petit peu moins à un moment donné parce que mécaniquement, il y a une difficulté d'acheter 80 milliards d'euros par mois, mais on voit toujours des taux dont le potentiel de remontée est faible. C'est intéressant de le dire en ce moment, alors que ça vient de remonter, justement, on pense que sur le chemin européen, il n'y a pas un grand pas encore à réaliser.
Oui. Oui, parce que quand on parle des États-Unis, on parle du programme de Donald Trump, du futur programme, on parle des infrastructures, on parle de dépenses,
ouais.
Et donc on parle d'inflation, et il y en a même qui écrivent finalement merci Donald Trump pour Janet Yellen pour finalement remonter ses taux.
Oui, oui. Alors il y aura une hausse là, c'est quasi certain. D'ailleurs, on voit bien qu'ils ne veulent pas contrarier finalement le marché qui a le sentiment qu'il y a une hausse en décembre. S'ils commençaient à intervenir pour freiner la hausse du dollar, peut-être que le marché l'interprète très bizarrement. Par contre, je pense qu'il Une fois que la hausse aura lieu le 14 décembre, ils réinterviendront pour signaler qu'ils veulent moduler et modérer la hausse du dollar. Sur le programme de Trump, autant sur les aspects offres, on a le sentiment qu'il y aura bien baisse d'impôts, etc. Autant sur les aspects infrastructures, les forces républicaines pourront s'opposer à cela. Donc on a l'impression que le programme sera peut-être moins ambitieux que ce qui est annoncé à l'heure actuelle quand même. Donc, oui, alors l'inflation mécaniquement, on voit bien qu'elle était déjà, la remontée avec l'effet de base du pétrole plus haut était là. Ensuite, est-ce qu'il existe des forces inflationnistes ? Pas du tout, hein. Il y a toujours une démographie, il y a toujours des éléments de long terme qui militent finalement pour une inflation qui reste quand même basse. Oui.
Pour les investisseurs, c'est jamais évident, puisque dans ces périodes-là, on parlait de taux bas, on a cette prise de risque nécessaire sur les actions, on a vu des effets au moment des élections, on a vu aussi que les événements politiques avaient plus d'effets, mais par exemple l'élection de Trump, ça n'a pas été la catastrophe annoncée, au loin de là, on a des records sur les indices américains.
Oui, 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 c'était une relative surprise, quand même pas tant finalement l'élection de M. Trump, mais on pensait quand même qu'il pouvait y avoir un petit peu plus de volatilité, non pas que ça rebaisse comme le Brexit, mais de là à ce que ça monte. Oui, il a envie de voir le verre à moitié plein. Alors, dans les séquences, on a l'impression justement que l'inflation, c'est quelque chose qui pourrait être en ce moment dans un deuxième temps, pas tout de suite. Et donc, on avait plutôt l'impression qu'il pouvait y avoir d'abord les effets. Alors, peut-être qu'il le joue, le marché a le sentiment que finalement, c'est plus des impôts moindres, donc des résultats supérieurs, donc des dividendes des sociétés plus importants, qui seront finalement le moteur de la hausse des marchés, peut-être davantage que réellement une demande beaucoup plus forte adressée via une politique d'infrastructure.
Et puis, on n'a pas de réponse, bien entendu, encore sur les sujets de protectionnisme économique. Et ça a fait peur à un moment donné en disant que toutes les zones, finalement, allaient se fermer et donc que le commerce mondial pouvait en pâtir.
Oui, oui. Alors, c'est vrai que ça fait déjà quelques années, en fait. On avait au début de la décennie, finalement, de la décennie 2000, un commerce mondial qui était plus du double, c'est-à-dire aux alentours de presque 10% par rapport à une croissance qui était un peu supérieure à 4%. Aujourd'hui, on a une croissance à 3% dans le monde avec un commerce mondial qui est plutôt de l'ordre de 2%. Donc ce mouvement de régionalisation, il était déjà en cours. On voit bien peut-être qu'il y aura peut-être plus de problèmes pour des petits pays. On a l'impression que Donald Trump, quand même, aura des relations bilatérales avec des grands pays. On prend l'exemple de la Chine. Et donc que ça permettra moins des pays comme la Chine que des petits pays qui sont un peu dans la phase de démarrage finalement et d'exportation. Et ces pays pourraient un peu souffrir justement d'une forme de protectionnisme. Oui.
Alors au cours des dernières années, on a vu sur les pays émergents donc être affectés par ce qui s'est passé sur le dollar et puis par cette hausse des taux attendue mais jamais arrivée. On a vu les investisseurs donc réagir, revenir sur ces marchés émergents. Est-ce qu'à nouveau, ils risquent d'en sortir ? Quelle est un peu la stratégie quand on regarde ces marchés ?
Alors c'est vrai que nous, on a été surpondérés cette année. Ça a marché justement par rapport à qu'est-ce qu'on met à côté du marché européen. On avait envie davantage de privilégier à la fois les marchés émergents et puis les marchés japonais couvert contre le risque de change. Ça, c'est un gros pari qu'on avait mis dans les portefeuilles, davantage peut-être que le marché américain. On voit là quand même que sur les émergents, il y a un peu une distinction. Et c'est vrai que sur l'élection de Donald Trump, on a quand même réduit la part des émergents en se concentrant davantage sur les gros pays émergents qui peuvent avoir une politique forte bilatérale avec les États-Unis plutôt que sur des petits pays émergents. Oui, donc momentanément, ça peut quand même rebattre un petit peu les cartes, en effet, oui.
Alors, on parlait de politique, on peut en parler en Europe avec le référendum italien. On a vu des mouvements sur les taux, on voit des inquiétudes, mais est-ce que finalement les investisseurs se font peur et puis ensuite se rassurent avec les banques centrales?
Alors d'autant plus que la Banque centrale interviendra le jeudi suivant les élections italiennes du 4 décembre. Donc on voit bien que la Banque centrale est amenée à éventuellement intervenir. La difficulté, je pense, vis-à-vis de l'Italie, c'est davantage le problème, finalement, que tout le projet de construction européenne et de la supervision, finalement, de la BCE, c'était un projet où on déconnectait, finalement, le payeur contribuable et le créancier. Par contre, on voit bien que c'est très difficile en réalité à mettre en place parce qu'en Italie, certes, on ne fait pas payer le contribuable, mais si on veut faire un haircut sur la dette d'une banque comme Monte Paschi, eh bien c'est le petit porteur, où l'action a déjà été divisée par 50, on me dit, mais c'est le petit porteur, même créancier, qui lui souffrirait. Donc en réalité, au-delà du projet, qui est important quand même, parce que c'est un peu le même projet que Fillon d'une certaine manière, où il souhaite réduire, avoir un Parlement finalement qui soit plus opérationnel. Alors en France, il veut faire passer un référendum. En Italie, c'est finalement réduire le poids du Sénat. Alors cette mesure, si elle passe pas, c'est un peu ennuyeux parce qu'il y a une telle, je crois qu'on est à 65 modifications et chamboulements finalement de cabinets politiques depuis la Libération. Donc ça montre bien la volatilité très très forte. Mais ce n'est pas un problème en soi. Le vrai problème, au-delà des élections, c'est vraiment le problème de qu'est-ce qu'on fait avec ces créances douteuses, qui sont très importantes en Italie, qui représentent deux fois le poids de l'Italie à l'intérieur du PIB européen. Et là, ce n'est pas les élections qui vont être déterminantes en la matière. Ouais.
Les investisseurs, bon, là on a cette fin d'année, c'est vrai que les fins d'année c'est toujours propice ou à des rallyes, ou on va dire ça peut se passer comme ça chaque année. Quel type d'investissement ils peuvent faire en ce début 2017? Puisqu'on peut dire qu'on aura peut-être eu la hausse de taux aux États-Unis, peut-être quelques mouvements sur les marchés. Est-ce qu'il faut toujours qu'ils soient investis sur les actions?
On a le sentiment que le marché a quand même choisi son camp par rapport aux actions, oui. Parce qu'en fait, on voit bien que ce qui était difficile, c'était cette phase de remontée de taux, et finalement, l'élection de Donald Trump a fait un peu diversion. Et pendant ce temps-là, les taux se sont déjà normalisés en partie. Donc cette phase est intéressante de normalisation. Et si on n'est pas dans un schéma finalement de germe inflationniste, c'est-à-dire qu'il y aura une hausse des prix qui est lié à l'effet de base du pétrole, mais il n'y a pas de germe inflationniste réellement. D'où le fait que les anticipations d'inflation, par exemple, de 5 ans aux États-Unis, nous semblent avoir monté trop fortement. Donc dans ce schéma-là, on voit finalement des taux qui ne vont pas fortement monter en Europe. On voit bien que la contrepartie de ça, c'est qu'un marché action, lui, va bénéficier de cet élément-là, oui.
Merci, Jean-Luc Friedman, d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.